sur Bayou Active.
Ouais, il est bienvenu.
N'oubliez pas, il y a deux génériques.
Radio Malégari pour les grands et les petits.
Radio Malégari pour les grands et les petits.
Bonjour, je m'appelle Naël et je suis en CM.
Moi Bruna, je suis en CM2.
Nous sommes des élèves de l'école Charles Malégari, qui est une école publique et laïque.
Mais qu'est-ce que c'est au juste cette laïcité dont on parle beaucoup maintenant?
Eh bien, cela fera l'objet de notre émission aujourd'hui.
Sally et Saloua vont nous expliquer ce que signifie la laïcité dans une école. Mais avant, nous avons réalisé un micro-trottoir que nous allons écouter maintenant.
Que signifie pour vous la laïcité à l'école?
Alors la laïcité, c'est le droit à apprendre, quelle que soit la religion, c'est la séparation de l'État et de la religion.
La laïcité à l'école, c'est... qu'on doit respecter les religions de chacun, mais que les religions elles doivent rester à la maison, à l'école, on n'en parle pas.
Pour moi, c'est accepter tout le monde et vivre tous ensemble.
La laïcité, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de différence entre toutes les religions.
Accepter tous les enfants, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nationalité, leur religion, leur croyance.
Ne pas faire entrer la religion dans l'école, et chacun a le droit de penser ce qu'il veut en dehors de l'école, et l'école n'est pas là pour transmettre des valeurs autres que celles de l'école et du respect des autres.
La laïcité à l'école, c'est le fait de laisser chez soi ses origines et ses croyances et d'arriver tous sur un pied d'égalité et tous être pareils à l'école, être tous les enfants là pour apprendre les mêmes choses.
Attends, non, mais il faut que je réfléchisse.
Madame Lavoisier était occupée, elle n'a pas pu répondre.
Bonjour, je vais tout d'abord vous expliquer les devoirs des adultes qui travaillent dans une école laïque. Les enseignants de l'école doivent être neutres. Ils ne doivent pas parler de leurs opinions religieuses. Ils ne doivent pas faire de prosélytisme, c'est-à-dire de ne pas imposer leurs idées. L'enseignant doit respecter la liberté de conscience des élèves et des familles. Il ne condamne aucune croyance.
Et toi, Saloua, tu vas nous parler des élèves?
Il y a aussi des droits et des devoirs pour les élèves dans une école laïque. La laïcité offre aux enfants les conditions pour forger leur personnalité, avoir leurs propres idées. Elle permet aux élèves de s'exprimer librement en respectant le bon fonctionnement de l'école et les idées de chacun, et les protéger de tout prosélytisme, de toute pression. Dans l'école, et les lycées et les collèges, c'est interdit de porter signes ou tenues par lesquelles les élèves manifestent un appartenance religieuse.
Sally, as-tu une autre chose d'important à rajouter?
Oui, les enseignements à l'école sont aussi laïcs. L'article 12 de la Charte de la laïcité précise que les enseignements sont laïcs pour que les élèves apprennent le plus de vision du monde et de savoir possible. Aucun sujet scientifique ou pédagogique ne peut être enlevé ou exclu du programme. Aucun élève ne peut invoquer une croyance religieuse pour refuser un cours ou un enseignement.
Merci beaucoup pour ces explications très précises.
Mais cette laïcité a-t-elle toujours existé? Iris et Christiana ont fait quelques recherches.
Avant la Révolution française, c'était le curé qui faisait l'école. Les enfants étaient disciplinés. On les tapait avec une règle, par exemple. Peu d'enfants allaient à l'école. Celle-ci n'était pas mixte. Les filles et les garçons étaient séparés. On y enseignait le catéchisme, la religion et éventuellement à lire et à écrire.
Et en 1882, il y a eu la loi Jules Ferry.
La loi du 28 mars 1882 de Jules Ferry sépare l'enseignement religieux et l'enseignement scolaire. L'école ne fait plus l'enseignement religieux, Cet enseignement reste possible en dehors de l'école. Pour cela, un jour de classe a été enlevé dans la semaine. Les années qui ont suivi ont connu de nombreux conflits entre les Français. Certains veulent la présence de l'Église dans l'État et d'autres défendent l'État républicain séparé de la religion.
Un nouveau texte de loi apparaît au début du XXe siècle.
La loi du 9 décembre 1905 officialise la séparation des Églises et de l'État. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. Toutes les religions sont acceptées si elles ne troublent pas l'ordre public. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
Merci Iris et Christin.
Radio Malégari pour les grands et les petits.
On va écouter maintenant les différences entre l'enseignement scolaire et l'enseignement religieux avec Ilan et Baran.
Enseignement religieux. Pour l'enseignement religieux, ce sont les religieux qui décident ce qu'il faut apprendre.
Enseignement scolaire. Pour l'enseignement scolaire, c'est l'État français qui décide ce que les enseignants doivent faire à l'école. On appelle ça les programmes officiels.
Enseignement religieux. Cet enseignement religieux est facultatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'apprendre la religion.
Enseignement scolaire. Par contre, c'est obligatoire d'aller à l'école. Les enseignements sont organisés en matière mathématiques, histoire, sciences, français.
Enseignement religieux. L'enseignement religieux affirme que Dieu existe. Il utilise un livre sacré écrit il y a très longtemps. Le texte sacré doit être connu.
Enseignement scolaire. L'école transmet ce que l'on sait aujourd'hui. Elle enseigne des méthodes de réflexion dans chaque discipline.
Enseignement religieux. Le texte sacré doit être connu, appris et respecté. Il transmet des informations liées à cette religion.
Enseignement scolaire. Il s'assure que les élèves comprennent bien ce que disent les maîtres pour mieux connaître le monde réel dans lequel ils vont grandir.
On enchaîne.
Merci, Ilan et Baran. Nous allons terminer notre émission en vous présentant les caractéristiques.
On pose des questions sur les origines de la vie. Et il définit ce qui est bien et ce qui est mal. Il dit aussi qu'il y a une autre vie après la mort.
Merci Ilan et Baran. Nous allons terminer notre émission en vous présentant les caractéristiques des trois principales religions qui existent en France.
Nous allons écouter Gabriella Josué.
Quelles sont les trois religions en France? Pourquoi les appelle-t-on les religions monothéistes?
En France, il y a principalement trois religions monothéistes. La religion catholique, la religion musulmane et la religion juive. On les appelle ainsi parce qu'elles croient toutes en un seul Dieu.
C'est le même Dieu?
Oui, c'est un seul et unique Dieu. Ce qui change, c'est l'histoire de chacune d'elles. Les catholiques reconnaissent Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Mahomet est le prophète envoyé de Dieu, reconnu par les musulmans. Pour les juifs, Jésus-Christ et Mahomet ne sont pas des prophètes envoyés de Dieu.
Quels sont les lieux de prière pour chacune de ces religions?
L'église pour les chrétiens, la mosquée pour les musulmans et la synagogue pour les juifs.
Quelle est la plus ancienne des trois?
La plus ancienne de ces religions, c'est la religion juive. Puis il y a eu les chrétiens et enfin la plus récente, ce sont les musulmans.
Comment s'appellent leurs livres sacrés?
Les livres sacrés sont la Torah pour les juifs, la Bible pour les chrétiens et le Coran pour les musulmans.
Qui dirige les prières?
Le rabbin dans la synagogue, le curé dans l'église et l'imam dans la mosquée.
on va vous présenter maintenant les symboles de chacune de ces religions.
Pour les Juifs, l'étoile de David représente un grand roi du peuple israélite. Pour les chrétiens, c'est la croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié. Pour les musulmans, c'est le croissant lunaire et l'étoile qui guide le croyant.
Il y a aussi en France une grande proportion de personnes athées qui ne croient pas en Dieu. Pour elles, Dieu n'existe pas. C'est l'athéisme.
Merci à tous, chers collaborateurs, et merci à nos auditeurs. Vous pourrez nous retrouver sur le site Bayactu.
Au revoir et à bientôt.
Merci.
Très bien. Micro sont coupés. Vous pouvez quitter la salle et laisser la place à l'équipe suivante. N'oublie pas d'envoyer le tapis sonore avant de partir.
À bientôt.
Allez, les vivre ensemble là. Avancez en place.
Sur un terrain de 30 000 supporters, porteurs d'une identité autre que leur barrière, autre que leur préjugé, qu'on multicolore et la bannière. Plus d'efforts pour être considérés, leur donnant l'occasion de nous inculper.
On va envoyer le générique.
Le
générique, s'il te plaît.
Radio Malégari pour les grands et les petits. Radio Malégari pour les grands et les petits.
Bonjour, vous êtes sur Bayo Actu pour une émission spéciale de l'école Charles Malégari avec Aziza et Atam. Nous allons vous parler du vivre ensemble. Au sommaire de notre émission, la liberté, la fraternité, le vivre ensemble en classe découverte, le tri et le règlement. Mais tout de suite, nous allons vous expliquer ce que c'est le vivre ensemble. Aziza, c'est quoi pour toi le vivre ensemble? Vivre avec d'autres personnes et apprendre à se connaître.
Quel conseil donnes-tu pour mieux vivre ensemble?
Respecter certaines valeurs, respecter certaines règles et se respecter.
Comme la liberté, par exemple.
Oui, et justement, Wanis et Dokan vont nous en parler.
Bonjour, Wanis et Dokan.
Bonjour, Adam et Aziza, nous sommes là pour vous parler de la liberté.
Bonjour, est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut quand on parle de liberté?
Non, il ne faut pas embêter les autres et il faut respecter les lois.
Et où trouve-t-on les lois?
En partie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle a été écrite pendant la Révolution 1789, mais surtout dans le Code civil.
Qu'a-t-on le droit de faire en France?
On a le droit d'avoir son opinion et de l'exprimer. Par exemple, de choisir sa religion et de croire en Dieu si on veut.
Est-ce qu'on a tous les mêmes droits et les mêmes devoirs?
Oui, on a tous les mêmes droits et les mêmes devoirs, et personne ne peut avoir de privilèges. Ils ont été abolis, interdits et 1789 pendant la Révolution française.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de la liberté.
Maintenant, nous allons recevoir Tatiana Issouf qui va nous parler de la fraternité.
Bonjour Tatiana et Youssouf, on vous écoute.
Bonjour Youssouf, qu'est-ce que c'est la fraternité?
Tous les citoyens sont frères, cela permet d'aider les personnes qui en ont besoin.
Ça sert à quoi aider les gens?
Nous sommes tous unis comme tes frères, on doit aider les gens et ils nous aideront. Mais Tatiana, comment peut-on aider les gens?
On donne l'argent aux impôts, ce qui est obligatoire, et si les impôts servent à redistribuer l'argent aux familles pauvres.
On peut aussi donner des vêtements, de quoi manger ou de l'argent aux associations caritatives, UNICEF, la Croix-Rouge et Maïs.
Merci beaucoup de nous avoir parlé de la fraternité.
Au revoir, à bientôt. Maintenant, nous allons recevoir Lucas et Sofiane qui vont nous parler du vivre ensemble en classe découverte.
Bonjour, Aziza et Adam. Nous avons interviewé Antoine, animateur de l'ARCOAD en classe découverte. Nous lui avons posé 3 questions sur le vivre ensemble. Comment apprenons-nous à vivre ensemble en classe découverte?
En classe découverte, comment pouvons-nous nous entraider?
Et aussi, comment pouvez-vous travailler tous ensemble dans le même endroit et dans la bonne humeur?
Nous allons vous faire écouter cette interview.
Je m'appelle Antoine, je travaille au centre de l'ARCOAD, je suis animateur et accompagnateur en montagne. Donc j'accueille toutes les semaines des classes ou des enfants qui viennent à la montagne.
À Payol, pendant la classe découverte, comment pouvons-nous nous entraider?
Alors, on peut s'entraider, à mon avis, un peu dans tous les moments de la classe découverte, parce que chacun, vous avez des facilités ou des difficultés dans les choses qui peuvent être un peu différentes. Ça peut aller de faire son lit le premier jour. Il y en a qui sont habitués plus ou moins à faire son lit, donc ils vont pouvoir aider ceux qui ont plus de difficultés. Ça va être aussi dans des moments un peu de vie collective, aider ses copains à ranger ses affaires, etc. Et aussi après dans les activités. Peut-être que certains ont eu plus de facilité à faire du ski, qui sont un peu plus à l'aise en ski, donc ils vont pouvoir aider le copain ou la copine à porter ses skis, à chausser ses skis, etc. Savoir vivre ensemble dans une classe découverte, c'est important dans tous les moments de la classe. Vous découvrez un nouvel endroit, la montagne, que pour certains vous connaissez pas ou peu. Et puis il y a une autre partie qui est très importante, c'est la vie en collectivité. La vie en collectivité, c'est savoir vivre avec d'autres enfants pendant une semaine. Certains, vous n'êtes pas habitués à vivre 24 heures sur 24 avec les copains ou les copines, et on se rend compte que chacun, vous avez des habitudes un petit peu différentes qu'il faut apprendre à respecter. Ça peut valoir le soir quand on va se coucher. S'il y en a qui ont l'habitude de se coucher à des heures différentes, eh bien, il faut apprendre à respecter l'autre, à prendre le temps de sommeil qui va être différent. Et puis aussi, vous apprenez à découvrir, à connaître d'autres enfants qui ont des façons de vivre qui peuvent être un peu différentes. Et puis, vous faites là, pendant cette semaine-là, les mêmes choses. Chacun, vous avez découvert que les autres enfants, ils jouaient aussi au baby-foot, ils faisaient des activités les mêmes que les vôtres, ils apprenaient à faire du ski aussi. Donc, au final, vous avez découvert aussi des enfants qui venaient d'autres endroits et qui avaient les mêmes intérêts, les mêmes envies que vous. Voilà. Et puis après, la classe découverte est aussi importante pour découvrir un autre endroit, vivre avec des gens qui travaillent aussi pour vous, pour la semaine.
Comment faites-vous pour travailler et vivre ensemble dans le même endroit et dans la bonne humeur?
Mais il faut que chacun fasse des efforts pour que tout se passe bien. Il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. C'est comme pour les enfants. Quand vous avez passé une semaine en classe découverte, il y a des moments où c'est bien, où c'est facile. Et puis d'autres moments, si on veut que ça se passe bien, que chacun doit faire des efforts. Chez les adultes, c'est pareil.
Merci pour cette interview et maintenant nous allons accueillir Oyana qui va intervenir sur le tri.
Bonjour Adam et Aziza, nous avons interviewé Sabine et animatrice de Bilta Garbi. Nous lui avons demandé à quoi servait le tri.
Bilta Garbi, c'est un syndicat qui traite les déchets sur notre territoire. Hein, donc les gens produisent des déchets, il faut bien les traiter, il faut bien faire quelque chose, Bilta Garbi est là pour les traiter. L'agglomération collecte les déchets et Bilta Garbi les traite. Dans les écoles, je viens pour expliquer aux enfants, mais aux adultes aussi, comment bien trier les déchets. Hein? Donc je rappelle les consignes de tri des déchets, on fait également du papier recyclé, on voit les filières de recyclage. Qu'est-ce qui se passe en fait une fois qu'on a jeté nos déchets dans la bonne poubelle? Eh bien, on se rend compte qu'il y a vraiment une utilité, que les déchets, après, on peut les recycler. Voilà. Mais seulement si on fait bien le tri sélectif, si on trie bien les déchets.
Pour le vivre ensemble, est-ce important de trier les déchets?
Eh bien oui, c'est très important de trier les déchets. Pourquoi? Parce que déjà, un déchet, il ne faut surtout pas le jeter par terre. Ça a des conséquences, ça pollue. C'est très nocif pour la planète. Donc on fait attention à notre planète. On respecte aussi les autres. Quand on arrive dans un endroit, l'endroit est propre, eh bien on le laisse propre, tout simplement. C'est une question de bon sens. Donc on pense aux autres. Le tri des déchets, c'est important.
Merci pour cette interview.
Continue. Maintenant, nous allons parler du règlement intérieur avec le dernier groupe, composé de Mehdi et Abdel.
Qu'est-ce que le règlement intérieur ?
Le règlement intérieur est un ensemble de règles qui sert à mieux vivre à l'école.
Est-ce que les adultes ont le droit d'agresser un élève moralement et physiquement ?
Non, parce que les élèves peuvent être traumatisés et peuvent arrêter de travailler et ne rien réussir dans la vie. De plus, tout châtiment corporel est interdit.
Est-ce que les élèves ont le droit d'agresser d'autres élèves moralement et physiquement?
Non, parce que tout châtiment corporel est interdit, y compris entre les élèves.
À quoi sert la surveillance des adultes dans la cour de récréation?
La présence des adultes permet de régler les conflits entre les enfants. Un début de bagarre, des insultes, des mots qui peuvent blesser et de l'injustice entre les enfants.
Est-ce que l'adulte est toujours nécessaire?
Non, heureusement. Il y a quand même des élèves qui peuvent se débrouiller seuls, mais pour cela, il faut bien connaître les règles et savoir les respecter.
Comment peut-on respecter le règlement intérieur?
Il faut le connaître et essayer de l'appliquer, même si ce n'est pas toujours facile. Par exemple, c'est difficile de respecter les autres dans une dispute.
Effectivement, c'est parfois difficile de se respecter, mais c'est pourtant très important si on veut pouvoir vivre tous ensemble.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Cette émission est maintenant terminée. Au revoir, à bientôt.
Merci.
Très bien, les micros sont coupés, vous pouvez parler si vous
voulez. À bientôt.
Merci. Tu le laisses circuler jusqu'à la fin. Moi, je vais couper ici.
À bientôt.